9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed.
Ekel et Jekyll du samedi matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bon de vous retrouver en compagnie du docteur Jimmy Mohamed pour votre désormais incontournable rendez-vous de la santé et du bien-être le samedi matin sur RTL. Ça va, Jimmy?
Très bien, et vous, Flavie?
Ouais, ça va super. Ça va être bien encore cette semaine.
On va apprendre plein de choses et puis il y a une bonne ambiance. Ça se passe plutôt bien.
C'est bizarre, moi, quand je vous vois, tout à coup, je me sens mieux. C'est l'effet placebo du Toubib ou pas?
J'allais vous renvoyer ce compliment parce qu'effectivement, on se sent mieux ensemble.
Allez, 3210, santé@rtl.fr pour poser les questions à Jimmy. Et nous, on vous raconte un petit peu ce qui nous attend pendant cette heure. L'heure du grand ménage de printemps dans votre logement a sonné. Bon, c'est vrai, comme ça, ça fait un peu ordre. Mais vous allez voir que ça peut être super sympa et vous allez apprendre plein de trucs. Cuisine, salle de bain, toilette, comment nettoyer efficacement son intérieur du sol au plafond. Les règles d'hygiène à respecter, les produits ménagers, ça c'est hyper important à proscrire pour préserver sa santé et garder une maison saine. Eh bien, c'est notre dossier de la semaine.
Le chocolat qui est à l'honneur en ce week-end de Pâques, qu'il soit blanc, noir ou au lait, eh bien, on va vous aider à bien choisir un bon chocolat. Et comment éviter aussi la crise de foie? Mais est-ce que la crise de foie existe? C'est l'aliment de la semaine.
C'est un projet de recherche franco-français mené par des chercheurs avec pour objectif de comprendre et de définir ce qu'est un microbiote normal. Pour ça, ils ont besoin de 100 000 volontaires pour faire progresser la science. Et bien justement, on va vous en parler. C'est notre routine de la semaine.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Mais on commence tout de suite avec vos questions et c'est Camille qui ouvre le bal. Ce soir, c'est le changement d'heure et comme à chaque fois, mes enfants ont du mal à retrouver leur rythme. Est-ce que je peux leur donner un peu de mélatonine pour les recaler? Alors, c'est vrai que c'est le changement d'heure, on arrive à l'heure d'été, vous aimez, vous?
Moi, j'adore l'heure d'été.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Parce qu'on va dîner un peu plus tard, on se lève. Enfin voilà, il y a un truc autour de fait de
c'est l'heure des apéros, pardon, on va le dire comme ça aussi, mais avec modération. Mais, voilà,
mais en fait, les chercheurs sont unanimes, la meilleure heure pour notre horloge biologique, c'est l'heure d'hiver.
Ah, c'est un peu plus déprimant. Moi,
et c'est pas l'heure d'été.
Ouais.
Parce que finalement, on devrait se caler sur l'heure solaire. Le problème, c'est qu'en été, il va faire nuit très tard, 21h, 22h, 23h, et forcément, ça perturbe notre horloge biologique. Et d'ailleurs, les enfants souvent se plaignent d'avoir du mal à dormir car il ne fait pas nuit. Et finalement, cette heure d'été, elle n'est pas trop adaptée. On devrait plutôt être sur l'heure d'hiver. À une époque, on avait dit qu'on aurait une harmonisation européenne, qu'on serait tous sur le même fuseau.
Toujours pas.
Toujours pas. Donc l'heure d'hiver est finalement un peu meilleure.
Jimmy Mohamed, ça chamboule vraiment ce changement d'heure. Moi, je m'y fais très facilement. Ça chamboule plus les enfants que
exactement.
Les adultes.
Les enfants et les personnes un peu âgées, elles ont un peu plus de mal. Il faut bien comprendre que le cerveau adore faire la même chose du matin au soir. Se lever, se coucher à la même heure. Et c'est comme ça. Il aime bien la routine, mais trop boulot dodo. Et il aime pas être chamboulé. D'ailleurs, vous avez remarqué, on a souvent faim à la même heure, on va aux toilettes à peu près à la même heure. D'ailleurs, je rappellerai qu'il ne faut jamais louper son train du caca. C'est-à-dire que quand on a envie d'aller aux toilettes, il faut y aller. Sinon, c'est à l'origine de constipation. Donc, il faut pas louper
le train du caca.
Le train du caca. Bah, quand le train arrive, vous avez envie d'y aller, il faut aller aux toilettes.
Okay, d'accord.
Bah, ça, c'est déterminé par notre horloge biologique. Elle nous dit quand on doit aller aux toilettes.
D'accord.
Et donc, elle n'aime pas ces changements d'horaire. Et on sait que les enfants, ils vont avoir du mal à supporter le décalage horaire et à supporter aussi ce changement d'heure. Et on a même observé que lors du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, il y a plus d'infarctus en plein hiver. Donc on fait attention aussi à ce changement d'heure parce que nos rythmes biologiques en fait déterminent tout simplement notre vie.
Mais alors justement, est-ce que la mélatonine est une bonne option pour les grands et puis aussi pour les petits puisque Camille nous parle de ses enfants? On va rappeler ce qu'est la mélatonine?
Oui, la mélatonine en fait c'est une hormone qu'on produit de façon naturelle dans le cerveau. Et c'est l'hormone, on dit du sommeil, mais c'est plutôt l'hormone de la nuit. Lorsque la luminosité baisse, on a une petite glande dans le cerveau qui produit de la mélatonine et qui nous donne l'envie de dormir. Le coup de barre qu'on a et l'endormissement, on peut l'avoir grâce à la mélatonine. Lorsqu'on est exposé à la lumière du jour, comme c'est le cas en été, eh bien on peut avoir du mal à trouver le sommeil. Dans ces cas-là, on peut utiliser de la mélatonine. La mélatonine, elle existe sous forme de complément alimentaire, donc elle est disponible sans ordonnance, à une dose maximum de 1,9 mg. Au-dessus, c'est sous prescription médicale.
D'accord.
Bon, c'est un peu hypocrite, mais voilà. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire attention à la marque que vous achetez. Parce qu'en fait, la mélatonine, elle n'est pas dosée correctement. En fonction de la marque que vous allez acheter, quand vous achetez 1 mg de mélatonine, vous pouvez avoir 0,5 mg, ou 3,5.
Mais pourquoi ?
C'est mal réglementé. Il y a d'énormes variations quant à la mélatonine et l'agence de sécurité du médicament le rappelle régulièrement. Attention avec la mélatonine en automédication, même si finalement elle n'a très peu ou pas d'effets secondaires.
Ok, d'accord. Et donc pour les enfants, on peut leur en donner ou pas ?
Alors, on déconseille de donner des médicaments pour favoriser l'endormissement d'un enfant. Toujours est-il que si à un moment vous dites « je suis en décalage horaire », ça c'est un conseil qu'on peut donner. Mmh. Vous partez à l'autre bout du monde, les enfants, il faut les recaler. Eh bien, on peut donner de la mélatonine pour favoriser l'endormissement. Si tant est qu'on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on a fait le rituel comme il fallait, qu'on a coupé les écrans, qu'on a lu la petite histoire, que l'enfant a suffisamment bougé en journée pour être fatigué le soir. Dans ces cas-là, il est possible, pendant quelques jours, d'utiliser de la mélatonine qu'on achète à la pharmacie sans ordonnance. Mais si au bout de 2 ou 3 jours, vous vous rendez compte qu'il y a un problème et que ça ne règle pas la solution, il faudra consulter. Mais oui, à la mélatonine, pourquoi pas?
Mais plus, pas trop jeune quand même.
Non, on évite chez les tout petits, évidemment. Voilà. Moi, je parle des grands enfants. Vous n'allez pas donner de la mélatonine.
Tu parles
à un
de quoi de
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans.
D'accord.
On peut donner de la mélatonine.
D'accord. Très bien.
Encore une fois, on respecte le cadre. Voilà, c'est pas un traitement miracle. Et attention, on évite de donner un médicament pour endormir un enfant.
Très bien. Voilà. Camille, on a répondu à votre question. Sinon, ben, on patiente. Hein, et puis les enfants finissent par se recaler, quoi.
Ouais, ça, c'est la bonne vieille méthode.
Ouais. Bah, écoute, ça a marché avec mes enfants, moi. Bah oui, c'est ça. À un moment donné, on y est tous passés, quoi. Donc,
c'est vrai que normalement, au bout de 2-3 jours, ça rentre dans l'ordre.
Exactement.
On a dû commencer comme ça.
Posez vos questions par mail à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed à l'adresse santé@rtl.fr.
Alors, un mail de Mathilde qui nous écoute chaque semaine. Elle nous adore tous les deux. Un duo très sympa qui fait du bien. Bah, figurez-vous qu'on est d'accord. En tout cas, qu'on est très sympa. Et on essaye surtout de vous faire du bien. Merci Mathilde pour votre fidélité. Mathilde, elle a une douleur qu'elle ressent très régulièrement depuis ses grossesses et qui s'accentue lorsqu'elle fait du sport. Je pense qu'elle est liée au nerf sciatique et cela me fait mal dans le haut de la cuisse et dans le bas de la fesse, d'un côté uniquement. J'ai consulté un ostéopathe, la douleur s'est atténuée au début, s'arrête totalement lorsque je stoppe le sport, mais revient dès la reprise et y compris lors de la marche, et parfois ça m'ennuie vraiment beaucoup. Comment faire pour l'atténuer et la voir disparaître ?
Alors, faut faire attention parce que souvent, quand on a mal au niveau de la fesse, au niveau du dos, on se dit c'est la sciatique.
Oui.
Mais pas forcément. La sciatique, c'est un nerf qui innerve l'ensemble de la jambe, et quand on a un disque qui vient écraser ce nerf sciatique, on a ce qu'on appelle une sciatalgie, une lombosciatique, et donc on a une douleur qui part dans la fesse, qui descend tout au long de la cuisse et qui va jusqu'aux orteils. Et le patient décrit très très bien la douleur, c'est comme un fil, c'est une décharge électrique qu'on a dans la jambe. Là, Mathilde, ce qu'elle décrit, c'est une douleur au niveau de la fesse.
Ouais.
Mais douleur au niveau de la fesse...
Et le haut de la cuisse.
Et le haut de la cuisse, ça ressemble pas tellement à de la sciatique. On peut avoir 1 milliard de pathologies au niveau du dos et de la cuisse. Elle a le droit d'avoir un problème de bassin, elle peut avoir une tendinite du moyen fessier, qui est un des muscles qu'on a au niveau des fesses. Elle peut avoir simplement un problème d'inégalité de longueur de jambe, parce que quand on a une jambe plus courte que l'autre, eh bien ça crée une petite bascule et on peut avoir mal au dos. Elle peut avoir simplement un lumbago qui traîne. Donc avant de dire que c'est une sciatique, quand ça ne passe pas au bout de quelques jours, il faut se poser des questions.
Mais alors on fait quoi justement si l'ostéopathe, ça soulage un petit peu, mais et puis surtout elle explique que quand elle ne fait plus de sport, elle ne ressent plus cette douleur.
Alors il faut bien faire attention, souvent quand on se dit je fais du sport, j'ai mal, donc je vais m'arrêter. Non, Mathilde, il faut bouger malgré tout, malgré la douleur. Évidemment, quand c'est insupportable, on s'arrête. Ouais. Donc, ça fait partie du traitement. En revanche, l'ostéopathe, ça peut aider, mais attention, quand ça tourne en rond, qu'il a craqué le dos et tout le tralala, que ça rentre pas dans l'ordre, bah, évidemment qu'il faut consulter un médecin, parce qu'à ce moment-là, on fera des radios, on regardera est-ce qu'il y a un problème de bassin, est-ce qu'il y a un problème de colonne vertébrale, est-ce que c'est ce nerf sciatique, et peut-être que ça l'est, mais dans ces cas-là, quand ça passe pas au bout de quelques jours avec un traitement, vous prenez du paracétamol, vous bougez, eh bien là, je l'invite vraiment à consulter pour qu'elle ait un diagnostic, parce qu'on sait pas ce qu'elle a, Mathilde. Elle a peut-être un problème de sciatique, mais elle a peut-être tout autre chose.
En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Tenez-nous au courant, Mathilde. Vous aimez le chocolat, vous ?
Ah, j'adore ça, mais qui n'aime pas le chocolat ? Vous aimez pas le chocolat ?
Si, j'adore le chocolat, tu rigoles. Parce que c'est Pâques, c'est week-end, on change d'heure, c'est Pâques, il y a du chocolat. Et en plus de ça, on va se retrouver dans un instant parce qu'on va parler du ménage de printemps. C'est le moment ou jamais, là, d'ouvrir les fenêtres. Pour ça, on va faire appel à un microbiologiste et hygiéniste.
Ouais, rien que
ça. Il s'appelle Christophe Mercier.
Il
sera avec
cool.
vous dans un instant sur l'antenne. Il a une belle chemise. Ce sera avec vous sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand, Jimmy Mohamed.
Ça va beaucoup mieux.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Merci d'être avec nous. Votre santé, votre bien-être, ça nous intéresse. Ça va beaucoup mieux. L'hebdo, c'est jusqu'à 10h sur RTL. Et attention, c'est l'heure du grand ménage de printemps. Alors, notre invité aujourd'hui est microbiologiste et hygiéniste. Il a une très très belle chemise, vous allez nous le présenter, Jimmy, vous le connaissez bien ?
Oui, il officie au magazine de la santé sur France 5, c'est Christophe Mercier. Et il donne plein de conseils sur justement comment entretenir notamment sa maison, mais pas que. Mais on va peut-être commencer par rappeler ce que c'est qu'un hygiéniste. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous les
bonjour
deux,
Christophe.
Bonjour
Flavie,
bonjour Jimmy.
Vous connaissez Olivier Dauvert sur RTL ? Parce que c'est le roi de la chemise assortie à sa veste.
Enfin, c'est vrai, c'est vrai.
Il a des looks incroyables, Olivier Dauvert. C'est un de vos potes, vous avez le même tailleur ?
Non, pas du tout.
Mais vous allez voir que c'est les Olivier Dauvert de la santé et
exactement.
Du côté d'hygiène, Christophe Mercier.
Pourquoi
et c'est un compliment qu'on vous fait,
voilà,
merci.
Exactement. Ah oui, non, mais parce que vous êtes arrivé avec une chemise hyper colorée, on sent que c'est le printemps et tout, c'est très
oui.
agréable. Bon, alors c'est quoi un hygiéniste ?
Alors, l'hygiène, c'est la science de la conservation de la santé.
Ouais.
Et un hygiéniste, c'est un éducateur en santé. Ça veut dire que mon travail, c'est de former le grand public, mais aussi depuis 32 ans, les soignants à l'hôpital. Je suis formateur des chirurgiens en hygiène des techniques opératoires, les soignants au niveau des pratiques de soins, mais aussi le personnel qui fait le nettoyage des locaux, le personnel en cuisine, le personnel des blanchisseries, tout ce qui va toucher le domaine de l'humain, de façon à ce qu'on ait de bonnes pratiques pour rester en bonne santé.
En fait, on peut altérer notre santé en faisant des erreurs, c'est ça, hein ?
C'est ça. Les mauvaises pratiques sont nuisibles à notre santé. Donc mon travail à moi, c'est d'éduquer, de former et d'informer.
Vous êtes monsieur propre.
Eh bah oui, ça,
alors j'en ai le look.
Ah bah ça, je n'osais pas. Je m'étais déjà attaqué à la chemise.
Je n'allais pas insister. Il a déjà fait.
Grâce à vous, on va essayer d'avoir des maisons plus propres et plus saines. Tout d'abord, est-ce que marcher avec ses chaussures à la maison, c'est... Moi, je trouve ça cracra. Mais
moi
est-ce que
aussi.
C'est dangereux pour notre santé ? Est-ce qu'on risque de tomber malade ? On se dit, on va mettre des bactéries un peu partout sur le sol.
Alors, c'est un principe de base. Les micro-organismes ne sautent pas. Donc ça veut dire que tout
c'est
ce qui est au sol,
puces, quoi. Voilà, c'est...
ah non, ouais. Ils sautent pas. Les bactéries ne sont déplacées que par les objets, par les postillons,
d'accord.
par exemple, mais ça saute pas. Donc ce qui est au sol reste au sol. Sur le sol, on va trouver quoi ? Effectivement, des bactéries, des champignons, des virus, mais aussi des déjections animales, des goudrons, des pollens, de l'essence, des produits chimiques, de la terre, des animaux en décomposition, des végétaux en décomposition. On va trouver tout ça sur le sol, mais ça reste au sol.
Mmh.
Ça veut dire tout simplement que à partir du moment où on respecte le principe qui est quand c'est au sol, ça reste au sol, et que mes chaussures, quand je les quitte, je les laisse au sol, mais je ne les mets pas en hauteur, que les sacs que j'ai traînés dans les métros, dans les supermarchés que j'ai mis par terre ou dans les caddies qui sont aussi sales que le sol, je ne les mets pas sur la table de la cuisine, tout va bien.
D'accord.
Donc, on peut très bien rentrer avec ses chaussures à la maison, ce n'est pas un problème,
ouais.
mais par contre, on les laisse toujours au sol.
D'accord, ok. Oui, moi j'ai beaucoup de mal. On peut aussi se mettre en chaussons et comme ça, on est très bien.
Mais complètement,
à une condition,
il faut juste être logique. Pas poser ses chaussons à l'endroit où on a mis les chaussures.
Vous parliez des sacs et c'est vrai que quand on va faire des courses, par exemple, on a nos sacs réutilisables, on les remplit, on arrive, on les met sur la table de la cuisine.
Oui, d'abord, on les a mis dans le coffre de la voiture.
Hein. En plus,
donc on les a mis dans le caddie, dans le coffre de la voiture. Dans le coffre de la voiture, on a mis quoi ? Plein de choses qui étaient au sol avant.
Ouais, donc, pour peu qu'on ait un animal, alors là, ça laisse tomber. Donc, on arrive, on pose nos sacs sur la table pour pas avoir à se baisser ou à sortir des trucs.
C'est foutu,
donc,
hein, vous pouvez rentrer en chaussures.
Bon, si on veut nettoyer le sol, justement, de quoi on a besoin ? Des produits qui font briller ? Parce que souvent, on se fait peut-être un peu arnaquer sur le marketing, fait briller, on se dit, ça fait briller, ça va être
n'oublions
propre.
N'oublions pas, Jimmy, que l'objectif des industriels, c'est de nous vendre des produits. Donc, on est prêt à tout, vous dire qu'il y a des parfums qui vont être rémanents, qui vont rester des heures, des jours, une fois que vous l'avez appliqué. Des produits qui vont briller sans rincer le sol, il a besoin d'être visiblement propre, c'est tout. C'est un aspect d'image de marque. D'ailleurs, quand on rentre dans un endroit, on regarde le sol en premier.
Ouais.
Il y a deux choses qui nous permettent d'imaginer la propreté. C'est le côté sol visiblement propre et l'autre côté, ça doit se sentir bon. Et à partir de là, on est content. Sauf que la maison, contentons-nous de mes lavettes fétiches, c'est les bandes de lavage en microfibre. Les bandes de lavage en microfibre, c'est merveilleux. C'est un mélange de polyester et de polyamide qui dégraisse et qui nettoie sans produits chimiques. Donc, vous les trempez simplement dans l'eau, vous appliquez ça avec votre balai et ça va nettoyer sans aucun produit chimique. Adieu la toxicité, adieu le rinçage nécessaire, adieu les sols qui
s'inquiètent.
Ah ouais.
À l'eau.
Mais c'est pas l'eau qui lave, c'est la microfibre.
Oui, 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 c'est ça. Mais
d'accord.
Bon, microfibre, mais eau.
Sans produit.
Sans produit.
Sans aucun
d'accord.
produit. Bon. Et si jamais vous avez de l'eau calcaire, le risque c'est d'avoir parfois des petites traces blanches de calcaire quand l'eau ça sèche, vous savez, vous mettez un tout petit peu de vinaigre ou d'acide citrique, si vous n'avez pas le vinaigre, dans l'eau, ça va détruire le carbonate de calcium et votre sol sera parfaitement propre.
Est-ce que l'eau chaude change quelque chose ? Eau chaude, eau froide, même efficacité ou pas ?
Alors, si on utilise des produits chimiques, jamais d'eau tiède ou d'eau chaude. Ça veut, même si le fabricant vous le dit. Parce que eau tiède ou eau chaude veut dire propager des composés organiques volatiles et des polluants dans l'air, et ça veut dire intoxiquer tout le monde, donc ça il n'en est pas question. Donc c'est eau froide avec les produits chimiques dans tous les cas, et quel que soit le produit chimique, ça c'est très important. Maintenant, avec des bandes de lavage microfibres et simplement de l'eau, qu'on utilise de l'eau tiède, de l'eau froide ou de l'eau chaude, ça ne va pas changer grand chose. Mais, si vous avez des déjections animales par exemple à la maison, tiens le chien il a fait un petit peu pipi ou caca, toujours de l'eau froide, parce que l'eau chaude fait coaguler les protéines qui se trouvent dans les liquides biologiques, le sang, l'urine, etc. Et ça va coller tout ça au sol. Donc, il n'y a que l'eau froide qui permet de décoller toutes les déjections animales et tout ce qui pourrait être au sol.
Et alors, quand on fait une vaisselle, en revanche, on la fait à l'eau chaude.
Alors ça, c'est un autre élément. La vaisselle est grasse. Oui. Or, l'eau chaude permet de solubiliser les graisses. Oui. Donc, une vaisselle se fait à l'eau tiède et se rince à l'eau tiède, toujours pareil, parce que de toute façon, en utilisant un produit vaisselle, vous aurez quand même des composés organiques volatiles et vous serez le nez dedans. Donc, eau tiède et jamais eau chaude pour faire sa vaisselle. Et on la rince à l'eau
tiède. Sans produit.
Ouais. Non, vous, avec, vous pouvez utiliser un produit. Mais parce que vous utilisez un produit vaisselle, il faut absolument avoir de l'eau tiède et pas de l'eau chaude. Ça, c'est important.
Pour désinfecter une maison, on veut souvent utiliser de l'eau de Javel. L'eau de Javel, est-ce que c'est un bon produit? Et si oui, est-ce qu'il faut se protéger? Parce que souvent, on dit elle est très diluée et qu'on risque pas grand-chose avec.
L'eau de Javel, il faut être très clair. C'est de l'hypochlorite de sodium, et l'hypochlorite de sodium, la majorité de la population ne sait pas l'utiliser parce que c'est mal indiqué sur les flacons, c'est écrit en trop petit. L'eau de Javel, c'est un produit extrêmement dangereux, extrêmement efficace, mais extrêmement dangereux. C'est un polluant, c'est du chlore, des chloramines qui vont se retrouver dans l'air de la maison. Et en plus, on a tendance à pas savoir qu'il faut l'utiliser qu'en eau froide, qu'il faut extrêmement la diluer, c'est-à-dire qu'il faut l'acheter uniquement en bidon. Il faut en prendre un petit bouchon pour mettre dans un litre d'eau pour l'utiliser, alors qu'on a tendance à mettre la moitié du bidon dans un seau, et puis en plus il ne faut pas la mélanger, et on se retrouve régulièrement avec des gens aux urgences qui ont mis de l'eau de Javel avec du détartrant WC dans les WC, et là, pour s'intoxiquer, il n'y a rien de tel, réaction chimique entre un acide et une base, et c'est extrêmement dangereux.
Et donc, là, on finit à l'hôpital dans ces cas-là ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire tout simplement qu'à la maison, il faut arrêter de vouloir désinfecter, d'utiliser l'eau de Javel, ça ne sert strictement à rien. À la maison, on nettoie, on n'est pas une collectivité. Et désinfecter, c'est réservé aux collectivités de santé ou de vie.
Pigé ? Allez, on se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. On a encore plein de questions à vous poser, Christophe Mercier. Ensuite, on parlera
du chocolat.
Voilà. Et puis la routine de la semaine, et puis vos questions. Bref, à tout de suite.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
Alors moi, ce matin, je suis aux anges. Parce que à ma droite, Jimmy Mohamed. Ça, nous, on commence à être un vieux couple sur l'antenne
le
d'RTL.
Temps passe.
Et à ma gauche, Christophe Mercier, qui est microbiologiste et hygiéniste. Et grâce à vous, Christophe, on se rend compte que, en fait, il faut simplifier les choses quand il s'agit de rendre notre intérieur plus propre. Simplifier les choses. Se méfier peut-être aussi des étiquettes des produits. Quand, vous savez, quand on a un truc genre 99,99% des bactéries, en général, moi, j'y vais pas parce que je me dis que c'est bidon.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la désinfection à la maison. Ouais. C'est pas une nécessité.
Non, mais le Covid étant passé par là, je crois que tout le monde a l'obsession, tu sais, de ça.
Mais on est tout à fait d'accord. Mmh. Et les industriels, de nouveau, ne se sont pas trompés. Donc l'idée, c'est de nous attirer vers tuer les microbes. Mmh. Sauf qu'on oublie de nous préciser sur les étiquettes que nous-mêmes, nous sommes composés de 100 000 milliards de bactéries. Mmh. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes bactériens. Et nous sommes bactériens à 90%. C'est-à-dire que notre corps extérieur-intérieur, c'est 90% de micro-organismes et 10% de cellules qui nous appartiennent. Donc, détruire les bactéries dans notre environnement, ce serait se détruire soi-même. Donc, en fait, c'est totalement contre-productif. Les bactéries, c'est la vie. Il y en a partout dans notre environnement. C'est normal. Le but, c'est pas de les tuer, c'est de vivre avec parce qu'elles font partie de nous. Donc, il faut à la maison avoir cette idée simple qui est nettoyer pour avoir un environnement qui soit visiblement propre, agréable à vivre, aérer pour éviter les produits chimiques, éviter les polluants d'intérieur, et en collectivité, tuer les bactéries qui peuvent être apportées par différentes personnes et qui peuvent se propager d'un patient à un autre, par exemple à l'hôpital.
Moi, j'adore la crème à récurer, parce que j'aime bien en mettre partout. Bah, j'en balance un peu partout et je nettoie.
La crème ou la poudre ?
La crème à récurer, vous savez, le flacon jaune, le grand flacon jaune qu'on achète. Je ne savais pas que ça existait sous forme de poudre.
Ah si ?
Crème à récurer qui sent parfois très bon. Il y a des petits saveurs citron, parfum citron. Et on se dit c'est bien.
Alors, la crème, déjà, il y a le combat poudre-crème. Poudre, jamais. parce que ça veut dire que la poudre, on va la respirer,
c'est volatile.
C'est volatile, et donc ça, on évite tous les produits à base de poudre, on évite totalement. La crème à récurer, sur la base, ça peut être formidable, mais à condition qu'on la fabrique soi-même. C'est-à-dire la crème à récurer, globalement, 4 cuillères à soupe de savon noir, 4 cuillères à soupe de bicarbonate, et 1 cuillère à soupe d'argile ou 2 cuillères à soupe d'argile. Et c'est tout. Si on veut que ça soit un peu plus liquide, on met un peu plus de savon noir. Celle qu'on trouve dans le commerce, c'est bourré d'horreur. Pourquoi ? Parce que ces crèmes à récurer, elles sont bourrées d'eau et que ça va être justement des bouillons bactériens. Elles vont pas durer longtemps dans le commerce. Donc, ils mettent des conservateurs et qui sont en général des producteurs de formol. Donc, pour empêcher que ces crèmes deviennent des bouillons de culture. Mais c'est hyper allergisant. C'est hyper dangereux, tant d'un point de vue cutané qu'au niveau respiratoire. Donc, premier problème, tous ces conservateurs qui se terminent par isothiazolinone. Deuxième problème, tous les parfums qu'on met dedans. Jimmy, vous parliez de senteur citron, parfum citron. C'est du limonène. C'est-à-dire, c'est un parfum artificiel issu à l'origine du citron, mais qui est hyper allergisant, le limonène, pour les personnes sensibles, pour les enfants. Et donc, obligatoirement, ça va être allergisant quand on va l'utiliser. Comment plus souvent on utilise tout ça en eau chaude, ouais. Ça va encore plus amplifier le phénomène. Donc, fabriquez votre crème à récurer. Attention, c'est une noisette de crème à récurer sur une lavette imbibée d'eau.
C'est tout, parce que moi j'en balance
c'est
partout.
J'en balance et ça partout. Pour un lavabo. Une noix pour une baignoire. Ouais. Ça va parfaitement récurer, vous rincez à l'eau claire et c'est terminé.
Qu'est-ce que vous avez, vous, comme produit, Jimmy Mohamed?
Le pchipchit pour les vitres.
Alors, ça tu as ça.
Ah, ça j'ai.
D'accord, mais ça aussi c'est volatile. Alors, pchipchit pour les vitres.
Vous n'avez pas de pchipchit pour les vitres, Fabie?
Non, alors moi, je peux vous dire ce que j'ai dans mon placard ou.
Ah, bah allez-y.
Moi j'ai du savon noir, du vinaigre blanc.
Ouais.
Et j'ai du bicarbonate.
Très bien.
Et voilà. Et
j'ai
c'est
la même
tout.
Chose.
Et en fait, je fais tout avec ça. Et quand je nettoie, par exemple, une vitre ou un miroir, tu vois, bah, je le fais avec du
et
vinaigre blanc.
Et faites-le avec une lavette microfibre.
Ah, bah ça, mais j'ai des lavettes microfibre, mon cher. Mais bien
fait.
Sûr.
Mais là, il est en train de se passer un truc entre nous. Là, je sens, tout d'un coup, je suis un peu exclu. Là,
ouais, exactement.
Il va falloir que je reprenne la main.
C'était le danger de me faire venir.
Et c'est pour ça. Et alors, donc, le pchit-pchit,
les pchit-pchit, c'est vraiment l'horreur en matière d'hygiène.
Ah, là, ouais,
on évite les pulvérisateurs. Rebelote, parce qu'on va pulvériser un produit dans l'air. Donc, énormément de polluants dans l'air. Et puis ensuite, on va l'avoir dans les yeux, on va le respirer, on va le recevoir sur les bras. Donc, les pchit-pchit, c'est absolument à éviter. À l'hôpital, quand on ne peut pas l'éviter, ce que je fais, c'est que j'achète des pchit-pchit avec un mousseur. C'est-à-dire qu'au bout de l'endroit où ça fait pchit, il y a une petite grille qui transforme le produit en mousse et ça limite la volatilité. Deuxième élément, pulvérisez toujours le pchit-pchit sur une lavette de façon à ce que ça absorbe un maximum de produits et jamais sur une vitre, par exemple. N'oublions pas que les produits vitres contiennent des dérivés d'éther de glycol et qui sont extrêmement dangereux, tant au niveau respiratoire que pour les yeux, extrêmement irritants. Donc tous ces produits-là, pulvérisés sur une vitre, vont vous revenir exactement dans le visage. Donc jamais directement sur une vitre.
Pas de pchit-pchit, on est d'accord. Non. Flavie, vous parlez du vinaigre, mais ça sent pas très bon le vinaigre. Il y a peut-être une alternative, non?
Oui,
c'est une odeur un peu.
Mais oui, bien sûr qu'il y a une alternative.
Bah déjà, t'ouvres tes fenêtres. Hein, donc
alors pour le vinaigre, j'ai une petite anecdote.
Moi, ça va, j'ai le droit de poser des questions aussi, Flavie.
Non, moi, je suis fan de vinaigre.
Alors,
blanc.
Pour le vinaigre, j'ai une petite anecdote. J'ai un ami qui partait d'un appartement. Je lui ai dit, il faut détartrer avec du vinaigre. Il m'a appelé le lendemain. Je vous assure que c'est vrai. Il m'a engueulé en me disant, mon robinet, il est tout rouge maintenant et ça n'a rien fait. Évidemment, il avait pris du vinaigre balsamique. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai.
Mais
ce n'est plus un ami.
Ménager.
Je l'ai choisi. Donc, c'est un moyen de le choisir. Donc, le vinaigre, l'alternative, c'est l'acide citrique. L'acide citrique, c'est tout simplement l'acide du citron. Et l'acide citrique, il est sous forme de poudre. Vous en mettez 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau et ça revient exactement au même que le vinaigre sans avoir la mauvaise odeur. L'acide citrique, c'est génial pour détartrer les cafetières, les bouilloires. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de fabricants vous disent pas de vinaigre blanc dans la cafetière parce que ça peut l'abîmer. Par contre, l'acide citrique, c'est impeccable. Ça ne l'abîmera pas.
Vous savez que le vinaigre blanc, donc, c'est hyper tendance et c'est plutôt bien. Vous souscrivez à cette idée. Néanmoins, aujourd'hui, ça coûte hyper cher.
Ah ouais,
c'est quand même incroyable cet effet de mode. On se fait arnaquer. Et parfois, tout à coup, on a au milieu des produits, on voit une sorte de rayon vert avec des bouteilles de vinaigre, genre les trucs de grand-mère et tout. Alors qu'en fait, tu vas un petit peu plus loin et t'achètes.
J'ai la solution, Flavie.
Alors, c'est quoi?
On est compte.
Parce que moi, je trouve que c'est vraiment pas.
Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai la solution.
Ça ne me surprend pas. Non, mais c'est quand même, c'est terrible, moi, je trouve.
Elle ne veut pas la solution.
Si, mais vous allez me la donner. Non, mais là, je m'adresse quand même aux enseignes et tout,
d'accord.
Parce que je trouve que là, pour le coup, on se fait arnaquer, parce qu'on sait que ça ne valait rien il y a encore quelques années, et maintenant vous
bon
achetez un litre
Christophe,
pour 4
pour
euros.
Pour
ne
pas vous faire arnaquer, c'est maintenant sur RTL.
Alors, c'est quoi?
Vous l'achetez au rayon des vinaigres.
C'est exactement ce que je disais.
C'est exactement le même. Et en
un
fait, vous allez
loin,
le retrouver à 45 centimes le 2 litres. C'est exactement le même. Mais sa concentration est plus faible et beaucoup plus adaptée en fait à ce qu'on va faire au niveau ménager. Il est à 6 à 8 degrés d'acidité, tandis que celui qui est au rayon des produits chimiques, il est à 12 ou 14. Très dangereux pour la peau, très dangereux au niveau des émanations, beaucoup plus toxique. Tandis que celui qui est à 6-8, c'est le même vinaigre dans lequel il y a vos cornichons.
Exactement.
Donc, vous l'achetez au rayon des vinaigres et tout ira bien.
Une question sur les balades ?
Oui, qui dit balade dit gourde, qui dit gourde dit attention, faut qu'on fasse attention, faut bien nettoyer sa gourde.
Oui, la gourde s'est rendu compte que c'était souvent plus contaminé que la lunette des WC ou la gamelle du chat ou du chien. Donc, ça veut dire que la gourde, il faut absolument la vider tous les soirs. L'eau qu'on met dedans, elle est valable pour la journée, mais en fin de journée, on la vide. Donc ça, c'est important. Et la gourde, ben, il faut un petit goupillon. Alors, on l'achète en silicone, c'est beaucoup plus simple. Et tous les soirs, un petit peu de produit vaisselle, le petit goupillon, vous rincez la gourde et c'est impeccable.
Vous le faites, vous ?
Jamais, non.
Comme j'ai de l'eau, maintenant, je le ferai en pensant à vous, parce que quand je la retourne, elle sèche.
Et moi, les gamins, ils jouent au foot, ils finissent pas la gourde le mercredi. Le mercredi d'après, ils retrouvent la même gourde.
Et ben voilà comment ça se passe dans la famille, Mohamed. Merci beaucoup. C'était
avec
hyper intéressant.
Plaisir,
on a appris
merci
plein de choses deux. Grâce à vous, Christophe, et bon ménage de printemps. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec le docteur Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
Dans cette émission jusqu'à 10h avec Jimmy, on vous livre des conseils de santé, des conseils de bien-être. Et puis de temps en temps, on est gourmand.
Eh bien évidemment.
Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL.
Que c'est le week-end de Pâques. Voilà. Et alors, le week-end de Pâques, les œufs, les cocottes, les lapins en chocolat sont à l'honneur cette semaine. Je ne connais pas une personne qui n'aime pas le chocolat, Jimmy.
Ah oui, j'ai pas envie d'en connaître.
Si, moi ça m'arrange parce que dans ce cas-là, j'ai double ration.
Ah, effectivement, je l'avais pas vu comme ça, effectivement. Mais c'est pas avec moi que vous allez trouver quelqu'un qui n'aime pas le chocolat.
Alors, en même temps, quand on mange des chocolats de Pâques, on mange souvent de la gnognotte, non ?
Alors, c'est vrai. Malheureusement, il y a souvent les industriels qui passent par là et qui nous vendent, notamment aux enfants, on va pas citer les marques, mais on sait très bien desquelles on parle, du chocolat de mauvaise qualité. L'idée, c'est de se dire que le chocolat, il y a plusieurs gammes, noir, blanc ou au lait. Le chocolat noir, il y a une réglementation très précise, c'est au moins 43% de cacao. Le chocolat au lait, c'est seulement 25%. Et le chocolat blanc, mais qu'on ne devrait pas appeler chocolat, c'est simplement 20% de cacao.
D'accord. Et donc, c'est quoi le mieux ?
Alors, l'idéal,
noir,
c'est plus un chocolat est riche en cacao, plus il contient d'antioxydants. Et on sait que ce cacao, il protège notamment notre système cardiovasculaire. Il va contenir ce qu'on appelle des flavonoïdes. C'est des antioxydants qui vont améliorer la circulation du sang et qui permettent même de faire baisser un peu la tension artérielle. Donc, pour notre santé, et puis aussi un peu pour notre palais, plus un chocolat est noir, meilleur il est. Plus il est blanc, moins il est bon, parce que forcément, il a plus de cacao.
Alors que c'est quand même super bon. Le cacao, c'est bon pour la santé.
Le cacao, c'est super bon pour la santé. Et on sait que le chocolat, ça fait du bien, notamment au moral. Et quand on regarde ce dont est composé un chocolat, c'est plus de 500 molécules, avec notamment ce qu'on appelle de la théobromine et du tryptophane. Alors c'est non compliqué, mais pour dire que le tryptophane, c'est ce qui permet de créer de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone...
C'est le kiff.
Exactement, c'est le kiff. J'allais dire, qui permet la régulation des humeurs. Mais non, vous avez raison, c'est le kiff absolu. Et c'est pour ça que quand on mange du chocolat, on se sent mieux, d'autant qu'il contient aussi un peu de magnésium, qui peut aider à lutter contre le stress et qui permet d'aider à dormir.
Certains disent que ça fait grossir, c'est vrai ou pas ?
Alors, que le chocolat soit blanc, noir ou au lait, il est calorique. Oui. Mais les calories, elles ne se valent pas. Il faut comprendre que plus un chocolat est riche en cacao, moins il contient de sucre. Si on regarde un chocolat à 75% de cacao, pour 100 grammes, vous avez environ 20 grammes de sucre. Mm-hmm. Pour un chocolat au lait ou un chocolat blanc, vous allez avoir 50 à 55 grammes de sucre. Le double, voire le triple de sucre.
Donc,
l'idée, c'est de manger un chocolat plutôt noir, riche en cacao. Et pour la quantité...
Ouais, je peux tout manger ou pas ?
En vrai, faites comme vous voulez. Je préfère, mine de rien.
Mais et parce que tu te régules naturellement,
ben
c'est
oui.
ça ?
Au bout d'un moment, on va lâcher l'affaire. Si vous mangez du chocolat... Mmh. Alors attention avec le chocolat au lait ou le chocolat blanc, comme il est très sucré, on peut le manger très très vite. D'autant qu'on allie le gras et le sucré, et ça marche très bien. Mmh. En revanche, le chocolat noir, honnêtement, après deux grands carrés de chocolat, ça va. 3-4, ça devient compliqué. Mais l'idéal, normalement, c'est de faire 20 grammes par jour. Ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est tous les jours qu'on peut manger du chocolat.
D'accord. Et c'est quoi cette histoire de crise de foie, là ? Vous y croyez, vous, Christophe ?
Ah non, ça n'existe pas.
On est d'accord, ça n'existe pas.
C'est un mythe, effectivement. Crise de foie, en fait, quand on mange beaucoup de chocolat, c'est plutôt notre vésicule biliaire qui va beaucoup travailler car on a absorbé beaucoup de graisse, graisse qui est présente énormément dans le chocolat au lait et dans le chocolat blanc. Donc, en fait, la crise de foie avec le chocolat n'existe pas.
C'est une idée reçue aussi que ça donne la migraine ?
Ouais, c'est une idée reçue. Alors, certains ont l'impression que certains aliments vont favoriser la migraine. Et en fait, des chercheurs se sont rendus compte que l'envie de chocolat qu'on aurait, ce serait un des premiers signes de la migraine. Et ce serait un symptôme de la migraine et pas une cause.
Ah, c'est dingue ça.
Donc si jamais vous avez envie de manger du chocolat, c'est que peut-être, et que vous êtes migraineux,
c'est bizarre.
C'est que peut-être la migraine est déjà en train d'arriver et c'est une manifestation neurologique de la migraine. C'est des chercheurs qui ont établi cette hypothèse. Et donc, moi je suis migraineux, de temps en temps j'ai envie de chocolat et je sais que la migraine elle arrive et je me dis, ah bah finalement, c'était un signe et pas une conséquence. Donc du coup, je mange du chocolat en pleine conscience.
On peut être addict ou pas ? On est addict au sucre, mais est-ce qu'on est addict au chocolat ?
Ouais, vous avez raison Flavie, addict au sucre, mais pas tellement au chocolat. Et d'accord, comme vous l'avez dit, normalement on doit se réguler un peu naturellement, il n'y a pas de dépendance si ce chocolat est noir. Et vraiment, je vous invite à manger peut-être un peu moins de chocolat en cette période de Pâques, mais du chocolat de meilleure qualité, peut-être si vous pouvez, du chocolat français.
Flavie et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos questions par email à l'adresse santé@rtl.fr.
Isabelle vous a écrit, elle a eu le malheur de toucher une chenille processionnaire. J'ai des plaques absolument insupportables sur tout le bras, ça me démange énormément. Que faire pour que ça parte ? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas croisé une chenille, dites donc. Oh, j'étais en train d'y penser.
J'en ai dans mon jardin, des chenilles processionnaires.
Et c'est quoi les chenilles processionnaires ? Elles sont toutes poilues, non ?
Exactement. Alors, elles ont une particularité. Alors, il y a des chenilles du pin et du chêne. Chenilles processionnaires, on les reconnaît assez facilement parce qu'elles marchent en file indienne. On parle de procession. Il y a un pic en mars de chenilles processionnaires et on va avoir ce pic jusqu'au mois de mai. Le risque, c'est qu'en fait, ces chenilles, elles ont des poils urticants avec une protéine toxique qui entraîne des lésions inflammatoires au niveau de la peau, comme de l'urticaire puissance 1000. Imaginez une piqûre de méduse, et ben vous l'imaginez pendant 3 ou 4 jours. Et vous allez vous gratter, ça va brûler, ça va faire mal, c'est absolument insupportable. Et en plus de ça, ça peut être dangereux pour les animaux.
Dangereux pour les animaux, c'est un chien qui joue avec
qui se met à la lécher, ça peut entraîner une nécrose de la langue chez le chien. Ces poils urticants de la chenille processionnaire, elles se retrouvent parfois dans les arbres et avec le vent, ça balance des poils qui sont extrêmement allergisants et on peut faire des crises d'asthme et même des crises d'urticaire alors que je n'ai rien touché. Donc c'est vraiment un animal dont on a besoin pour la biodiversité et tout le tralala, mais malgré tout, il y en a de plus en plus et elles sont extrêmement dangereuses pour la peau des hommes et des enfants.
Et on fait quoi alors justement ?
Il faut essayer de les traiter. Alors l'idéal, c'est quand même de faire appel à des professionnels parce que si vous avez le malheur, vous, d'essayer de les traiter et que vous balancez l'arbre et à ce moment-là, les poils urticants arrivent sur votre main, je peux vous assurer qu'on aura beau essayer de donner des anti-allergiques, des antihistaminiques, une crème à base de cortisone, vous allez souffrir le martyre pendant plusieurs jours. Et en cas d'atteinte au niveau de l'œil, ça peut être extrêmement dangereux.
En tout cas, Isabelle, si ça continue, consultez.
Parce qu'on donne des crèmes à base de cortisone
qui vont vous soulager parce que visiblement, c'est très douloureux. On passe à la routine de la semaine.
RTL, ça va beaucoup mieux.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Le projet French Gut.
Oui, c'est quoi French Gut ?
En fait, c'est des chercheurs français portés par l'INRAE. Alors, l'INRAE, c'est un institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et c'est en collaboration avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc, c'est un projet sérieux, très français. L'idée, c'est de cartographier et de définir ce qu'on appelle le microbiote normal. Vous savez, le microbiote, c'est les milliards de bactéries qu'on a sur la peau, le tube digestif. Et il faut rappeler qu'on a autant de micro-organismes qui composent ce microbiote que de cellules dans le corps humain. Donc ce microbiote, on en a besoin, mais il faut qu'on puisse le comprendre.
On a fait une émission dessus d'ailleurs.
Complètement.
On peut inviter nos auditeurs à la retrouver.
Qui était super bien.
Exactement.
La seule chose, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi un microbiote normal. Et on a beaucoup d'entreprises qui fleurissent et qui permettent d'analyser votre microbiote. Sauf qu'on ne sait pas définir. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire c'est quoi un poids normal, je peux vous dire c'est quoi l'hémoglobine normale, mais on ne sait pas ce qu'est un microbiote normal. L'idée, c'est de cartographier le microbiote, notamment des Français, pour avoir un échantillon et qu'on puisse dire, bah ça y est, on a une référence. On sait ce qu'est le microbiote normal. Parce que derrière, il y a un objectif.
Oui.
C'est de comprendre certaines maladies.
Alors voilà, c'est ça.
Parce qu'on sait qu'il y a un lien très fort entre de nombreuses maladies chroniques et le microbiote. Obésité et microbiote. Allergie et microbiote. Cancer et microbiote. Maladies inflammatoires et microbiote. Et on peut imaginer, pas maintenant, mais dans quelques temps, traiter des maladies avec des probiotiques et moins de médicaments. On sait notamment qu'il y a ce qu'on appelle la greffe fécales dans certaines maladies qui permettent de guérir d'une infection très particulière. Donc on peut imaginer que plus tard, ces maladies, on les traitera plus avec des antibiotiques ou des médicaments, mais des probiotiques.
Et comment on peut participer à ce projet alors ?
C'est très simple, vous allez sur le site qui s'appelle French Gut, c'est
G-U-T,
gratuit.
Hein,
ouais, Gut, c'est les intestins, G-U-T. Toute personne qui est majeure, qui habite en France, peut se porter volontaire. Vous remplissez un petit questionnaire, ça dure quelques minutes. Et ensuite, vous recevez un kit de collecte à la maison. Alors rassurez-vous, il n'y a pas besoin de manipuler le caca. Vous avez un petit pinceau et c'est exactement le même qu'on utilise dans le cancer colorectal pour le dépistage.
D'accord.
Vous faites un petit prélèvement sur le pinceau, vous refermez,
donc
vous
envoyez. Des selles.
Des selles, exactement.
Et on envoie.
Et vous envoyez ça par la poste.
Faut pas rater le train du caca, on l'a déjà dit en début d'émission. Donc là, non seulement vous le ratez pas,
et mais en plus vous participez.
Un petit
échantillon. L'objectif, c'est d'avoir 100 000 volontaires d'ici 2027. Ça a très bien démarré, mais ça patine un peu. Donc, il faut donner un coup de boost aux chercheurs parce que je suis persuadé que vraiment, les médicaments de demain se trouveront dans ce microbiote.
D'accord. On va le faire alors.
French Gut. On peut se porter volontaire. Tiens, je vais le faire aussi. J'ai pas pensé.
Viens, on va faire ça. Christophe, vous allez faire ça aussi.
Ah oui.
J'ai décidé.
Je suis microbiologiste à la base.
Voilà. Donc j'imagine que
le microbiote,
pour vous...
comme l'a dit Jimmy, c'est l'avenir.
Ouais.
Donc, ça, c'est hyper important aujourd'hui qu'on cartographie et ça va dépendre en plus d'un pays à un autre, d'une alimentation à une autre. Aussi.
Forcément, puisque ça n'est pas la même chose d'un continent à l'autre avec des habitudes alimentaires différentes.
Et
le microbiote est quand même au cœur de beaucoup de choses, c'est ce que vous nous avez expliqué.
C'est la prochaine révolution.
Et donc c'est hyper important. Donc 100 000 volontaires, vous allez sur le site de French Gut. C'est la fin, dites-moi messieurs.
C'est passé vite. Hein.
Ouais, c'est passé vite, puis c'était super intéressant. L'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires. Les questions, c'est au 3210 et les mails, vous les recevez où ?
Santé@rtl.fr.
Bon, je ne répète pas nos auditeurs comme chaque semaine qu'on vous retrouve du lundi au vendredi à 8h30, vous êtes un super matinal.
Et moi je ne répète pas aux auditeurs qu'on vous retrouve le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, donc tous les jours de la semaine à 20h dans Jour J, le magazine qui décrypte l'actualité.
Et c'est jusqu'au jeudi, et c'est pas jusqu'au vendredi, c'est pas grave. En tout cas samedi prochain je vous retrouverai sur cette antenne pour ça va beaucoup mieux. L'hebdo, juste après les infos, c'est Stop ou encore d'Éric Jean-Jean. Prenez bien soin de vous, passez un super week-end de Pâques, mangez du bon chocolat.
Oh oui.
Voilà. Et ne ratez pas le train, vous l'avez bien compris. On vous embrasse. Très bon week-end à vous. Ciao.
Salut Flavie.
Jimmy Mohamed.
Flavie Flamand.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.